Nous, comme journalistes, on n'a pas d'appareil photo, on n'a que nos mots, enfin, pour les journalistes de la presse écrite. Et donc, c'était chaque fois de pouvoir raconter avec des mots, et ça, c'était vraiment très important. C'était de pouvoir décrire au plus proche, écrire avec le plus de détails, avec le plus d'émotions, ce qu'on voit, écouter ce que les gens nous ont dit. Je crois qu'une des questions essentielles dans notre métier, c'est surtout de savoir écouter et de pouvoir retranscrire au plus près ce que l'on a vécu. Les gens qui nous voient arriver ont l'espoir que l'on va être capable de raconter leur calvaire. Et c'est ça qu'il faut savoir faire. Voilà ce qu'ils ont vécu. Voilà ce qu'ils ont vécu. Voilà ce que j'ai vu. Voilà ce que j'ai pu voir. C'est pas du tout d'être. De faire preuve de compassion ou de tirer les larmes des gens. Ce n'est pas du tout ça. C'est le fait que les gens peuvent se dire bah, j'y étais, mais c'est comme si j'y étais, quoi. Je pense qu'à partir de là, d'une certaine façon, bah, j'exagère un petit peu, mais on est un élément de leur sauvetage, quoi. Je crois que c'est ça, de faire notre métier, quoi. Le métier n'a pas d'autre sens que celui-là. J'ai été très frappé, moi, par le massacre de Sabra-Chatila. Je me souviens qu'on avait été jusqu'à la lisière du camp et les militaires israéliens nous ont dit de partir. Donc on a su qu'il y avait eu des informations à ce sujet et c'est là qu'ils nous ont dit il y a un massacre qui se produit. On ne savait pas exactement ce que ça signifiait, mais on avait su ça. Et c'est le lendemain matin. On avait entendu des tirs, on voyait les Israéliens qui étaient sur tous les immeubles à Bir Hassan, et on entendait évidemment les tirs. Mais c'est seulement le lendemain qu'on est arrivé, il y avait les Israéliens qui étaient tout autour là, et partout il y avait le signe que les phalangistes avaient mis, qui était une sorte de rond avec une flèche. Qui montrait l'endroit par où les phalangistes étaient rentrés. Et on est rentré, et là on a vu l'abomination des abominations, les morts. Mais c'était plus que ça, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on avait tué les ânes, les animaux, tout ça avait été absolument. Et puis il y avait une odeur de mort absolument infernale. Et là, on a été absolument ébahis. Et puis après, on a commencé à se promener dans le camp. Enfin, les types étaient partis. Et il y avait des camions qui prenaient des gens. Qui prenaient des gens qui ont disparu, enfin des Palestiniens qui ont disparu. Et on ne pouvait pas communiquer parce que les Israéliens avaient coupé la ligne. Et la seule façon de communiquer, c'était de passer par la station de l'armée israélienne. Et donc, il fallait envoyer tous les papiers par l'armée israélienne. On préparait les papiers, on téléphonait, ça passait par Israël. Et donc, c'était ça. Alors, le problème de Sabra-Chatila, on était deux équipes. L'aéroport de Damas, de Beyrouth, était fermé. Donc, le seul moyen qu'on avait pour transmettre, c'était de passer par Israël, par Jérusalem. Donc, pendant qu'une équipe était à Jérusalem en train d'envoyer son reportage, l'autre équipe filmait. Et après, on s'échangeait. L'équipe qui était à Jérusalem retournait à Beyrouth et couvrait l'actualité comme ça. Et c'était. C'était quelque chose d'historique parce que c'était la première fois qu'on pouvait faire Beyrouth-Jérusalem en voiture, alors qu'avant c'était toujours. Mais bon, c'était pour nous le seul moyen de couvrir. Et c'était quand même gênant d'avoir comme base arrière Israël, quoi, parce que on n'a pas eu de problème à cause de ça, mais bon, les combattants, ils savaient qu'on faisait la navette. Le va-et-vient entre Israël, donc c'était, ça aurait pu être pour eux quelque chose de suspect, mais on n'a pas eu de problème. Donc le jour du déclenchement de Sabra-Chatila, moi j'étais pas à Sabra-Chatila, j'étais en train d'envoyer un reportage à Jérusalem, et mon collègue Daniel Bilalian, qui couvrait le Sabra-Chatila,
me dire au téléphone, il s'est passé des trucs, on n'a pas bien compris, etc. On envoie des images. Et il avait un commentaire qui était pas du tout d'actualité, quoi. Donc j'ai refait son commentaire que j'ai envoyé avec ses images. Et après, je suis reparti à Beyrouth pour faire la suite. Et ce qui a choqué dans l'affaire de Sabra Chatila, c'est que les Israéliens étaient là et apparemment savaient que les miliciens rentraient dans les camps. D'ailleurs, il y a eu une très bonne enquête du journaliste israélien Amnon Kapeliouk qui a démonté un peu l'histoire, quoi, qui a sorti notamment ce message d'un officier sur place qui était adressé à Ariel Sharon, ministre de la Défense de l'époque, disant « nos amis rentrent dans les camps ». Donc ça veut dire que les Israéliens savaient qu'ils rentraient dans le camp de Sabra Chatila, mais qu'ils n'ont pas empêché. Alors on dit qu'ils ne se rendaient pas compte de l'ampleur que ça allait prendre, etc. Et que, voilà.
Puis il y a eu la guerre de la montagne, qui était une guerre absolument atroce. Je crois que j'étais le seul journaliste à un moment donné à être monté à Pramdoun. C'était là qu'on avait quitté Beyrouth, on était monté à Pramdoun pour voir les massacres, parce qu'on parlait de massacres, de voir les massacres. Et donc, je me suis retrouvé avec des druzes, je me souviens, qui ont tué, massacré des chrétiens de Pramdoun. Ils étaient ivres de sang. Et à un moment donné, donc, les types m'ont invité à manger chez eux, quoi. Et donc, ils m'ont amené, ils m'ont reçu comme un roi. Et je leur disais, mais c'est incroyable. Vous me recevez, moi, à l'étranger, comme un hôte. Vous me donnez à manger votre pain, votre nourriture, etc. Et là, et vous êtes en train de vous avez tué vos voisins. Vos voisins avec qui vous viviez depuis des années, vous les avez massacrés comme ça. Et il dit, ouais, parce que tu fais pas partie, tu rentrais pas dans le conflit, quoi. Tu n'étais pas dans le conflit. Il n'y a rien de pire que la guerre civile. La guerre, c'est normal, il y a des camps qui se... Mais la guerre civile, c'est là où la bestialité la plus terrible... Et j'ai assisté à la bestialité de trucs. Des corps étaient enlevés des tombes, enfin des deux côtés. C'est là que j'ai découvert ce qu'était une guerre civile. Il y a toutes les explications qu'on peut donner pourquoi ça s'est passé... En fin de compte, ça a entraîné une explosion de bestialité absolument horrible.
Un soir, c'est vers 10h du soir, pendant la guerre des camps, je reçois un coup de fil d'une amie qui me dit « Écoute, il paraît qu'il y a une tuerie à l'hôpital Gaza de Chatila, qui était assiégé. » C'est ce que j'entends, qu'il y a un massacre en cours maintenant. Le lendemain matin, tout Beyrouth bruissait de ce qui se passait en réalité. Je cours à l'AFP et je dis à Sami Katz, il paraît que ça s'est passé à Chatila, à l'hôpital de Gaza. L'hôpital s'appelle Gaza. Il me dit, bon, on va y aller. On prend la route Sami Katz, moi, Nabil Ismail, qui est photographe, parce qu'il connaissait très bien aussi les miliciens, parce que le camp était assiégé, comment on va réussir à s'infiltrer. Il me semble que Selim aussi était avec nous, Selim Yassine, mon copain de l'AFP. On va tous les quatre, on arrive à côté du camp de Chatila, et grâce à Nabil, on se retrouve à l'hôpital Gaza, où il n'y avait personne qu'un médecin, mais il avait l'air de trembler de peur. Il y avait des miliciens. Et le médecin, Libanais, nous dit non, il ne s'est rien passé, tout est très très tranquille et tout. Mais il ne pouvait pas parler. Et là-dessus, on voit des miliciens qui arrivent et qui nous jettent dans une pièce avec des grilles et qui nous enferment à clé parce qu'ils ne savaient pas ce qu'on avait recueilli avec nos enregistreurs. Et là-dessus arrive un responsable, il se met à hurler sur nous et on n'avait eu aucun témoignage. Je rentre chez moi à Sayet-Jenzir, c'était le 9e étage. Il y avait la guerre en plus, pas seulement les bombardements contre le camp est-ouest, les obus tombés. Ouais, c'était Ramadan. Quand les obus ont commencé à tomber, comme j'étais sur le roof, j'ai tiré le téléphone jusqu'au 8e étage pour envoyer mes papiers. Et mon voisin de palier est descendu comme moi au 8e. Mais on s'est dit un étage plus bas, ne pas être au dernier étage. Et c'était l'heure du iftar. Je vois sa belle-mère qui vient avec du halo et tout, qui m'offre et qui lui offre. Il ne mange pas. Je lui dis, qu'est-ce que tu as ? Pourquoi tu ne manges pas ? Il me dit, j'ai vu quelque chose d'horrible, Dominique. Je lui dis, quoi ? Il m'a dit, j'ai été au quartier d'Anna pour prendre ma belle-mère qui est en face de Chatila. Et il y avait un massacre dans le camp que j'ai vu. J'ai vu des jeunes être emmenés, des malades, des gamins de 16 ans malades, être traînés dans le terre-plein et être fusillés et tués. J'ai vu tout ça. Je lui dis, écoute, demain tu viens avec moi à l'AFP, tu vas témoigner. Et j'appelle Samy, je lui dis, écoute, voilà les détails et tout. Il me dit, tu dois l'amener. On lui dit l'anonymat, on ne dira pas son nom. C'est un témoignage clé. On a appelé la BBC, on a appelé Reuters, on a appelé UPI, on a appelé EPI, on a appelé Libération, Sœur Chalandon, on a appelé plein de gens. Tous nos collègues, on leur a dit, écoutez, si tous on sort l'histoire, ils ne pourront pas nous faire quoi que ce soit. Donc on leur avait dit, vous venez à l'AFP demain matin. Il m'a dit, il est hors de question. J'ai des enfants, j'ai ça. Je lui ai dit, on ne dira pas ton nom. Il m'a dit, il n'est pas question, Dominique. Le lendemain matin, à 7h du matin, j'ai tapé à sa porte. Je lui ai dit, écoute, excuse-moi, mais il m'a dit, tais-toi, je vais venir. D'accord, je t'emmène. Non, donne-moi l'adresse, je viendrai. Ne me fais pas le coup de ne pas venir, je viendrai. À 8h, il est venu, il a donné son témoignage devant tous les journalistes. Entre-temps, une autre journaliste de l'AFP avait entendu qu'une des infirmières du camp était réfugiée dans un appartement à Raouché. Elle avait réussi à sortir du camp, elle et sa mère. On court là-bas. On arrive, sa mère lui dit « Tais-toi, il ne s'est rien passé dans le camp !» Sa mère tremblait de peur, une hajj et tout. Et l'infirmière dit « Même si je dois être tuée, je vais parler. » Et elle nous a raconté en sanglotant comment ils ont fait le massacre, comment ils ont pris un jeune homme qui l'a supplié, un gamin de 16 ans. Ils lui ont enlevé toutes ses bandelettes et comment ils les ont exécutées et qu'elle n'a rien pu faire. Donc on avait un deuxième témoignage. On a réuni tous les journalistes. Et elle a parlé aussi, elle a donné son témoignage. Et après, on a vu qu'il y avait des... et qu'il n'en avait pas. Reuters était les plus grands lâches de la planète, parce que le journaliste voulait raconter la story, il était en charge, hein. Et les Libanais du service arabe de Reuters lui ont dit « Jamais ils vont venir nous tuer, nous trucider, nous Aïda. » Reuters s'est désisté et n'a pas couvert la story. Moi, RFI, l'AFP, EPI, on dit, si on raconte pas, à quoi bon être journaliste si on va s'écraser ? Alors dans n'importe quel coin du monde, il va se passer des choses, on va s'écraser et se taire. On est là pour raconter ce qu'on voit. C'est une story énorme. UPI a dit non, on va pas couvrir non plus, on avait peur. Non, mais en fait, c'était un coup qu'ils faisaient à EPI parce qu'ils se sont empressés de rentrer au bureau, d'envoyer la story avant tout le monde pour faire un scoop. Reuters, non, ils ont vraiment eu peur et on les a traités de tous les noms. Et on a sorti la story. Et ça, c'était une histoire très, très, très éprouvante parce que c'était terrible. Ils voulaient couvrir l'histoire, comme j'imagine à Sabra Chatila, mais il y avait des images terribles, là, ils ne pouvaient pas. Toujours les responsables essayent de couvrir les exactions, quoique c'était des choses de grande ampleur, quand même.
Comment devient-on un tueur ? Ça peut être une question assez facile de dire... Mais je pense que c'est une question extrêmement compliquée. Ceux qui avaient massacré, etc., étaient des gens, des jeunes de bonne famille, hein. Des gens qui n'avaient pas, qui n'étaient pas au départ des assassins, qui le sont devenus et qui ont participé à ces massacres et qui l'ont fait. Ça m'interpellait beaucoup pour savoir, et donc j'ai fait pas mal d'interviews d'assassins. Et alors je me souviens d'un témoignage d'un type qui m'avait dit, voilà, ben moi j'étais lycéen, et puis il y avait à côté de moi, il y avait les miliciens qui étaient des phalangistes, et ils nous disaient tout le temps, ben allez, viens, tire, tire. Et moi, je ne voulais pas tirer, je ne voulais pas faire ça, je ne voulais pas. Et puis, peu à peu, on est devenus copains, on fumait des pétards ensemble, etc. Et puis, un jour, il y avait une femme qui était là, qui était en train de mettre un drap, en train d'accrocher un drap. L'affaire de cette femme. Et elle m'a raconté, ben, j'ai tiré. Et là, j'ai vu que j'avais tué quelqu'un. C'est peut-être pas les mots exacts, mais ce qu'il disait, c'était eh ben, le jour où j'ai tué, je suis passé de l'autre côté, du côté des morts. C'est-à-dire qu'à partir de là, je ne faisais plus partie du même monde, j'étais du côté des morts. Et ça m'a énormément frappé. Il y avait des jeunes qui avaient des armes, des types qui avaient... Ils avaient, en fin de compte, le pouvoir divin. Le pouvoir de vie ou de mort. Des mômes qui avaient 12 ans, 13 ans, qui avaient le pouvoir de vie ou de mort sur nous. Moi, je me souviens que j'étais sorti à un moment donné de l'hôtel, et il y avait des jeunes qui étaient là, et qui m'ont obligé à danser devant eux en rigolant. Et je pense que ce pouvoir de vie ou de mort, ce qui est un pouvoir divin, brûlait les enfants, parce que je veux dire qu'avoir à 12 ans, 13 ans, ils auraient pu me tuer, ils auraient pu faire ce qu'ils voulaient. Après, je me suis beaucoup posé la question de qu'allaient devenir ces enfants? Qu'est-ce qu'ils vont devenir après la guerre? Et en fin de compte, je pense que ce qui a sauvé ces enfants pour devenir des voyous, des gangsters, etc., c'est la famille. Je crois que la famille jouait un rôle très, très important. Et cette famille a permis à ses enfants, après la guerre, qui avaient les armes, qui avaient eu tout ça, de retrouver une vie pas normale, mais enfin, en tout cas, de retrouver une certaine normalité. Quand la guerre s'est arrêtée, tu avais plein de gens qui avaient été des tueurs, qui avaient fait ça. Et beaucoup sont devenus fous. Beaucoup sont devenus fous. C'est-à-dire que tant que tu étais dans un groupe de miliciens d'un côté ou de l'autre, tant que tu étais dans ce groupe, tu pouvais d'une certaine façon justifier ton existence en disant « D'accord, c'est vrai que j'ai tué, mais je ne suis pas le seul à l'avoir tué, il y en a d'autres qui ont tué aussi. » Mais le jour où tu te retrouves seul, la bande de copains qui a tué est dispersée, eh bien, la plupart de ces gens-là devenaient fous, quoi. Enfin, ont dû être soignés et tout ça parce que tu restes avec le sceau de Caïn sur ton front. Tu as tué. Et la plupart des gens qui ont tué ne pouvaient vivre que quand ils se retrouvaient entre eux. Parce que quand ils étaient seuls, ils étaient frappés par ça. J'ai vu des choses atroces par des gens, et que ces gens-là atroces justifiaient les trucs en disant « Oui, mais je ne suis pas le seul, on était tout le monde. » Et là, je me suis posé la question « Est-ce que je pourrais tuer ?» quoi. Parce que c'est très simple de dire « Oui, ben non, jamais ça m'arriverait. » Mais si on vous tue ton frère, ta sœur, ton fils, ton enfant, la chair de ta chair, est-ce que tu es prêt à tuer? Parce qu'en fin de compte, ils ont commis l'irréparable par rapport à toi. Est-ce que tu es prêt à le faire? Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé. Et ça m'a pris beaucoup de temps pour arriver à la conclusion que je ne le ferai pas. Parce que le faire, c'est passer dans le royaume des morts. Et le fait que ce garçon m'avait dit ça, ça m'a extrêmement frappé. Je me suis dit, même s'ils ont commis l'irréparable vis-à-vis de moi, je ne le ferai pas parce que je ne veux pas être dans le même monde que ces gens-là. Et le royaume des morts, c'est un royaume dans lequel on ne revient jamais.
À l'époque, quand vous êtes sur place et que vous voulez trouver un sens aux choses, surtout quand vous êtes journaliste, Vous voulez trouver un sens, il y a forcément un sens aux choses. Ben non, 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 il n'y en avait pas là. Il n'y en avait pas. D'ailleurs, tous les combats qui ont eu lieu dans Beyrouth, je pense pendant 15 ans, ont changé quoi l'équation de la ville? Rien. À part grêler les murs de balles, dans des déferlements de violence absolument idiots, stupides, ça n'a rien changé. Ce qui m'a poussé à quitter, c'est d'abord que je travaillais beaucoup moins, il y avait beaucoup moins de travail, mais c'était surtout un épuisement. J'étais épuisé, et puis la ville s'était vraiment vidée, j'avais beaucoup d'amis qui étaient partis, les conditions étaient de plus en plus dures, vraiment de plus en plus dures. Moi, il pleuvait dans mon appart, j'avais pas de chauffage, je me chauffais avec une espèce de chauffage avec une bouteille de gaz, le téléphone devenait de plus en plus compliqué. Et donc ça devenait très pénible, très très pénible, et c'était toujours la même chose, ça se répétait, il ne se passait pas grand chose. Et puis surtout, moi, les médias pour lesquels je travaillais commençaient à se ficher éperdument de ce qui se passait à Beyrouth, parce que c'était toujours pareil.
Je pense que la pire calamité du Liban, c'est l'amnistie. Pour moi, la pire des choses, ça a été l'amnistie. C'est-à-dire qu'on a dit, allez, on oublie tout, allez, etc. Mais on n'oublie rien. Et donc, quand on a fait semblant de laisser, de faire cette amnistie qui est absolument monstrueuse, parce qu'en fin de compte, si par exemple on avait jugé les gens et qu'on avait dit, voilà, vous avez commis l'irréparable, vous reconnaissez que vous avez commis l'irréparable, vous avez reconnaissé ça. Mais on vous pardonne. C'est tout à fait différent que le fait d'avoir dit « Non, il ne s'est rien passé. Non, non, on tourne la page. » Mais on ne tourne pas la page des massacres. Elle continue, elle vit. Et la preuve, c'est qu'il y a très peu de gens qui sont rentrés dans leur village parce que ça sent encore la mort du voisin et la honte qu'on peut avoir de ce qui a été commis et tout ça, ça reste. Et c'est pour ça que je considère que c'est une guerre qui n'est pas du tout terminée.
On ne se rend pas compte de l'épuisement des gens. De l'épuisement des gens qui étaient à Beyrouth et qui devaient se maintenir. Je pense que c'était vraiment, vraiment épuisant. Et des jeunes, vous êtes jeune dans ce pays où tout semble bouché, vous faites quoi? Donc beaucoup de gens partaient, beaucoup de gens ont été chassés de ce pays. L'esprit de ce pays a souvent été foutu dehors.
C'est une histoire qui peut se passer absolument partout, où la vengeance, le sang, dans des circonstances exceptionnelle, particulière, de violence, les gens sont prêts à aller faire des choses qui sont abominables. À tout moment, la vie peut basculer. C'est pas le fait que ce sont des Libanais et que bon, ils ont le pistolet facile et qu'ils ont ça. C'est parce que effectivement, la vie a basculé au Liban. Et la chose la plus importante, c'est justement de pouvoir réussir à se prémunir de cette violence. Jamais je ne verserai dans le royaume des morts. Je serai toujours du côté du royaume de la vie.
J'ai un souvenir d'obsèques. Et les obsèques de cet attentat, vous aviez des cercueils qui faisaient un mètre, quoi, 80 centimètres. Vous avez la douleur des familles qui s'exprime bruyamment, violemment, ça verse dans l'hystérie, dans la folie. Et là, c'était extrêmement, extrêmement pénible. Très, très pénible. Vous atteignez un niveau où c'est trop là. Et je me souviens, moi je pleurais. Et il y avait un photographe qui me disait « Je ne vois pas ce que je photographie. » Parce que, comme il pleurait, il ne voyait pas, il shootait comme ça. Et j'ai un souvenir très important ce jour-là. C'était un milicien très digne qui marchait en tête du cortège et qui avait brandi au bout de ses bras un portrait d'un jeune, je pense que ça devait être son frère, qui était mort. Lui avait vraiment une belle gueule, musclé, baraqué, genre de type pas facile. Et lui, il avait des larmes qui coulaient aussi le long des yeux. Et je me rappellerai toujours, parce qu'il avait une Kalachnikov, et sur la sangle de sa Kalachnikov était écrit quelque chose en français. Et j'ai vu ce qui était écrit, et cette phrase, depuis ce moment-là, je l'ai toujours avec moi. Il était écrit sur la sangle, « Si tu ne vois plus le soleil, ne ferme pas les yeux car tu ne verras plus les étoiles. »
Vous venez d'écouter Ma'bar, une saison sur le journalisme pendant la guerre civile libanaise. Nous remercions les journalistes et photographes qui ont accepté de nous confier leurs histoires en participant à Ma'bar. Si vous appréciez notre contenu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et soutenez-nous sur Patreon.